Conversation avec un article, 17e épisode, déjà. Le principe, un compte-rendu d'articles scientifiques récents publiés dans une revue en sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, un article publié le 6 octobre 2020, vous avez vu l'actualité quand même, publié donc dans la revue Social Semiotics. Il a été rédigé par Annabelle Mouni, professeure au département Médias, Culture et Langage de la School of Arts de l'Université de Roehampton à Londres. L'article génial de cette collègue porte sur les vidéos de pimple popping, des vidéos sur YouTube où l'on voit, tenez-vous bien, des dermatologues, des esthéticiennes, des profanes éclater des points noirs, des boutons d'acné, des abcès et des kystes. Je reprends mon souffle. Alors, j'ai d'abord découvert ce genre médiatique il y a quelques années, qui connaît un très grand succès. Il y a des tas de vidéos aujourd'hui sur Snapchat, sur TikTok, il y a même des forums et des groupes de fans. Mais il y a surtout une chaîne célèbre sur YouTube, celle du Dr. Lee, que j'adore, sur laquelle porte en partie le travail de la collègue chercheuse, qui s'est également penchée sur deux autres vidéos de dermatologues connus. Son étude porte donc sur trois vidéos de trois dermatologues, sans doute les plus célèbres sur le pimple popping. Alors le but de l'autrice de l'article est assez simple finalement, il s'agit de comprendre pourquoi on regarde et on aime regarder ce type de vidéos, un peu dégueulasse hein, pour être honnête, vous en avez peut-être déjà vu, des vidéos qui mettent en scène du pu, des boutons en très gros plan, des tissus organiques, des pustules, alors bah pourquoi ? La réponse est assez simple et paradoxale, c'est parce que ces vidéos, ces productions médiatiques procurent de la satisfaction, voire du soulagement, mais dans un espace qui est ritualisé. Et ça, c'est très important, on va le voir après. On ne peut pas faire ressentir cette satisfaction n'importe comment, dans n'importe quelle condition, il y a des règles à respecter. Et en effet, quand vous regardez un professionnel dans un espace médicalisé éclater un bouton, ça ne fait pas tout à fait le même effet qu'une vidéo entre potes sur TikTok. Alors, pour comprendre ce plaisir paradoxal, la chercheuse fait d'abord, et c'est très précieux, un état de l'art sur les théories de la peau, qui va lui permettre de conceptualiser son terrain, de le problématiser, de trouver une porte d'entrée fructueuse qui dépasse le « mais pourquoi les gens font ça et regardent ça, c'est idiot ». C'est important de partir de soi, de son étonnement, mais le travail de recherche consiste justement à partir de cet étonnement à donner de l'attention, du temps à un phénomène, à le prendre au sérieux. Et pour ça, on a besoin d'un peu de théorisation, de concept, d'un regard informé en tout cas, parce que d'autres gens se sont intéressés à ces questions et donc peuvent nous apporter des outils pour rentrer dans cette matière. Alors, je ne savais pas, mais il existe aujourd'hui tout un courant de recherche sur la peau, les Skin Studies, qui regroupe un ensemble de recherches portant sur cet organe, abordé à travers différents prismes, la sociologie du racisme, l'anthropologie du corps, la linguistique, on écrit sur les corps. Il y a une très belle série d'ailleurs de Marianne Pavot sur son site sur la question des tatouages. Elle propose des analyses de discours, je vous conseille cette série hein, sur la pensée du discours. Mais il y a également des études phénoménologiques ou sémiotiques sur la question de la peau. Je vous ai mis des références. C'est d'ailleurs ces deux dernières disciplines qui accompagnent Annabelle Mouni, l'autrice de l'article, à la suite d'autres chercheurs, chercheuses, très inspirés par Merleau-Ponty, le philosophe français. La chercheuse montre que la peau est un organe à part entière qui recouvre l'ensemble du corps, et j'en ai pris conscience à ce moment-là. Organe à partir duquel nous appréhendons le monde. La peau est regardée, elle est scrutée, elle est touchée, mais elle touche également. C'est un objet, mais c'est également un sujet. C'est à la fois une barrière et une membrane, une frontière fluide et une interface qui fuit, pour citer un universitaire spécialiste du sujet qui est cité dans l'article, la France, et je vous ai mis la référence. Alors, plus encore, la peau est un instrument de connaissance, une source de signification, écrit l'autrice de l'article. À partir d'elle, nous interprétons le monde social, nous attribuons des identités aux individus, noirs, blancs, arabes, asiatiques, etc. Nous leur attribuons des qualités, gentils, bon gendre, bad boy, vous voyez, des qualités racistes hein, dans certains cas. Nous construisons également à partir de la peau des âges et des catégories, l'adolescent boutonneux par exemple. Nous percevons donc les autres à un niveau viscéral, à hauteur de peau, nous les voyons à travers cet organe qui nous contient, qui nous enveloppe, qui nous informe. Riche de cet état de l'art, l'autrice de l'article propose de penser la peau à un triple niveau, comme une frontière, comme une surface et comme un texte. Alors, c'est un peu bizarre, évidemment, mais pour certains sémioticiens, ces gens comme moi, qui s'intéressent aux signes, un geste en société, un repas en famille, un site web peuvent être considérés comme des textes, c'est-à-dire comme des ensembles signifiants avec des règles de composition, des valeurs également. Par exemple, on ne met pas ses pieds sur la table. Ces trois niveaux, bon, je caricature, hein, c'est beaucoup plus complexe, mais je vous mettrai également des références. Ces trois niveaux, frontières, surface et texte, vont être utiles pour comprendre ce qui se passe à l'écran sur YouTube. Dans ces vidéos où la peau de patient avec des kystes, des boutons d'acné, des boutons noirs, vous voyez, j'ai du plaisir à le dire, va être filmée de très près. Dans la plupart de ces vidéos, le cadrage joue un rôle fondamental. Il permet de donner à la peau un statut particulier. Plus qu'une partie du corps, la peau apparaît comme une surface malléable qui se tend, se détend, prend des formes différentes à mesure qu'elle est touchée par une dermatologue, mais également par l'équipe de tournage qui multiplie les plans d'ensemble avec tout le contexte médical, les plans moyens sur le corps du patient, les gros plans sur une partie du corps, les très gros plans sur la peau, sur le kyste, sur l'acné. Pour travailler toutes ces questions, la chercheuse s'est focalisée, je le rappelle, sur trois vidéos de trois dermatologues qui ont rencontré un grand succès. L'autrice de l'article s'est d'abord intéressée aux commentaires postés sur les vidéos, 1300 en tout, en menant une analyse thématique après une extraction de ces commentaires grâce à un outil que je vous ai mis en référence. Pour faire simple, elle a intégré tous ces commentaires dans un tableau Excel et a mené une annotation inductive et itérative de son corpus. Je vais reprendre parce que j'avais dit simple. En fait, elle a lu plusieurs fois cette masse de commentaires, a repéré intuitivement des éléments qui revenaient souvent, puis aidée par ses concepts et des allers-retours permanents entre commentaires, vidéos, lectures théoriques, sans doute des conversations avec des collègues. La chercheuse Annabelle Mouni a identifié au final six grands thèmes. Avant de les développer, quelques mots sur le travail éthique. L'autrice de l'article ne fournit aucune capture d'écran dans son article et ne cite jamais exactement les internautes pour protéger leur vie personnelle. Et en effet, c'est pas parce que des usagers de YouTube postent publiquement des commentaires qu'ils maîtrisent l'usage qui pourrait être fait de leurs commentaires et de l'audience éventuelle de cet usage. Imaginons, je sais pas, qu'un patron d'un internaute tombe un jour par miracle sur l'article et prenne connaissance de la teneur du propos, alors que, je sais pas, l'internaute était supposé être en réunion de travail, par exemple, vous voyez. Alors, je vous mettrai là aussi des références sur la question éthique et sur la question des terrains dits numériques. J'ai particulièrement apprécié ce tact et cette délicatesse de la chercheuse. Alors, concernant son terrain, les vidéos de pimple popping, la chercheuse a identifié six thèmes, je le rappelle, les voici. Premier thème, les commentaires sur le praticien, sur son comportement, sur sa voix. Deuxième thème, les dermatologues. Deuxième thème, des commentaires qui peuvent être négatifs, mais qui sont relativement peu nombreux. Troisième thème, l'état du patient, c'est-à-dire comment il se trouve au moment où l'opération est menée. Quatrième thème, les marques de sympathie à l'égard de ce patient, ce sont des souhaits de rétablissement, etc. Cinquième thème, l'expérience du visionnage de la vidéo. Et sixième thème, les techniques d'extraction qui sont interrogées. Alors c'est surtout le cinquième thème, que développe la chercheuse, l'expérience du visionnage de ces vidéos. En gardant bien à l'esprit sa question de départ, pourquoi on regarde ça? Pourquoi on s'impose ça, bordel? La chercheuse repère dans les commentaires de cette catégorie des interjections comme « yeah » qui viennent signaler l'accomplissement de l'acte chirurgical et le plaisir ressenti par le spectateur. Alors, il y a plusieurs raisons à ce plaisir, à cette délivrance auxquelles j'apporterai des compléments, peut-être des intuitions quoi, d'analyse. Premièrement, selon la chercheuse, nous avons la même attitude ambivalente à l'égard des sécrétions sexuelles. On peut être à la fois excité et à la fois dégoûté selon les situations, les moments, la partenaire, le contexte. Ici, et c'est très important, l'extrême proximité de la caméra crée paradoxalement une distance esthétique. La peau n'est plus regardée comme un organe, mais comme une surface presque terrestre ou lunaire. C'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Et c'est cette distance qui est la condition du plaisir, qui relève de l'exutoire, mais surtout de la catharsis chez Aristote, de la purification de l'âme, du retrait de ce qui aurait corrompu la pureté originelle de l'organisme. Or, et c'est là que c'est passionnant, ces actions corporelles sont toujours reliées à des questions identitaires. Une peau recouverte de boutons, par exemple, viendrait signaler quelque chose de l'individu, le soin qu'il s'apporte, mais également sa souffrance dont il faudrait le délivrer. Dans cette configuration médiatique, le patient passe donc une épreuve qu'il réussit grâce à ses aidants. Deuxièmement, le spectateur est certes soulagé, mais sans inconfort. L'opération est parfaite. Il n'y a aucun accroc, le geste est réalisé d'un coup, l'impureté est éliminée sans reste, contrairement aux vidéos d'amateurs. Il y a donc un plaisir plein, total, sans embûche. Les sécrétions sont encadrées, elles s'expriment certes et explosent dans un espace dévolu, mais rien ne déborde grâce aux professionnels. C'est donc l'autorité de ce dernier qui transforme le regard porté sur la peau et sur ses boutons. Les dermatologues y mettent de l'ordre de manière ritualisée avec un protocole, des objets, des assistantes. Ils permettent au dégoût de s'exprimer pleinement et d'avoir l'assurance de trouver chaque fois une résolution en réglant par ailleurs la question du statut très ambigu de ces boutons, à la fois sous la peau et hors de la peau, à la fois dedans et dehors. Une fois extirpés, ils cessent leur vie liminale en devenant complètement autres. L'altérité est expulsée. D'ailleurs, dans plusieurs vidéos que j'ai pu regarder, on voit l'une des dermatologues très connues qualifier les postules, les organes extirpés de « petites aliens ». Enfin, la chercheuse remarque des rituels de visionnage. Les gens déclarent regarder fréquemment la même vidéo, parfois avant de s'endormir, à des heures liminales, entre veille et sommeil, entre nuit et jour, parce qu'ils trouvent là aussi un réconfort paradoxal. On se fait peur avant de trouver le calme au lit, avant de retrouver la stabilité d'un chez-soi. Selon la chercheuse, les gens se déclarent eux-mêmes fous et étranges en qualifiant leur expérience de satisfaisante, un terme aujourd'hui très utilisé sur Instagram ou Twitter par des profils qui proposent des vidéos dites satisfaisantes, où un savon, par exemple, est parfaitement découpé. Dans ce cas où l'individu exprime sa propre bizarrerie, on peut faire l'hypothèse, encore une fois, qu'il parvient à résoudre, c'est l'hypothèse que je fais, qu'il parvient à résoudre son altérité par le soulagement et par son expression collective dans un espace lui-même ritualisé. On peut commenter, liker, exprimer une émotion standardisée. L'individu se désindividualise à ce moment-là. Pour résumer, la pourriture, la souillure n'existe pas en elle-même, comme l'a montré Mary Douglas qui est citée, Mary Douglas donc dans les années 60. La pourriture, la souillure n'existe que dans l'œil du spectateur, dont l'œil est ici configuré par tout un cadrage médiatique qui va permettre de parcourir une gamme d'émotions, du dégoût jusqu'à la satisfaction. Le son qui n'est pas analysé dans l'article participe à la création du dégoût. Les micros sont rapprochés de manière à entendre la viscosité. Il y a donc une densification sonore, une sollicitation de tous les sens pour construire un acmé dégoûtant qui va trouver une résolution dans l'extraction finale après des séquences sensorielles intermédiaires. Quelques commentaires et prolongements, comme à mon habitude. D'abord, j'ai adoré l'article, il est vraiment bien théorisé, et les concepts servent de gouvernail tout au long de la démonstration. Ils ne sont pas convoqués inutilement. J'ai également apprécié l'articulation entre analyse thématique, analyse de la vidéo et théorie de la peau. Ce triptyque marche bien et permet de montrer que la peau fonctionne ici comme une petite unité spectaculaire. C'est un petit show. Et il ne faut pas oublier où on est sur YouTube, une industrie culturelle qui convertit tous les aspects de la vie sociale et corporelle pour les rendre divertissants, plaisants. Ici, c'est le gore qui est réinvesti. Au niveau des manques, peut-être, il me semble que la dimension narrative est à peine implicite dans l'article, je m'explique. Quand vous regardez les vidéos de Pimple Popping, surtout celle du Dr. Lee, c'est un genre télévisuel très marqué qu'on appelle la télé-réalité. Bon, moi, j'en regarde tout le temps, donc je connais bien les codes. On voit le patient avant, dans le cadre des Pimple Popping, on voit sa famille, on le voit exprimer son désarroi avant la rencontre avec le Dr. Lee, qui peut, dans certains cas, manifester un doute, une inquiétude, une incertitude sur l'issue, tu parles. On a affaire à ce qu'en sémiotique, on appelle un schéma actantiel, notion de grimace qui a été popularisée par la formule storytelling. Et en effet, il y a ici un storytelling de la peau, le plaisir né du parcours systématiquement refait dans l'ordre qui trouve chaque fois une issue favorable. Et c'est pas un hasard si des personnes s'endorment en regardant ce type de vidéo. C'est le rituel du soir, c'est le rituel de l'enfant qui cherche à se lever dans ses habitudes, qui fait l'expérience d'un désordre, d'un chaos, puis d'un ordre, d'un monde assis qui retrouve ses coordonnées. Il y a un deuxième élément qui me semble important, c'est celui de la réaction des corps et notamment toute la dimension politique autour de l'altérité. Ce que fait la production médiatique, et pas le docteur Lee qui fait juste son travail, quoique, hein, elle en tire aussi largement profit, il n'y a qu'à regarder sa chaîne YouTube. Mais bon, je m'intéresse surtout à la production médiatique, même si elle y participe. Et cette production met en scène et en signe une purification des corps, une absence totale d'ambiguïté, d'altérité, de différence. Alors bien évidemment, je ne dis pas qu'il faudrait garder ces pustules, ces kystes énormes qui paralysent la vie des gens, ce n'est pas du tout le propos. C'est le traitement médiatique qui m'interroge ici, qui me semble rejoindre des conceptions problématiques des corps et de la nature, nécessairement propres, sans aspiration, sans relief. Je vous recommande mon 11e podcast, oui, pour comprendre de la mouche aux déchets, vie et mort dans les laboratoires, où j'aborde toutes ces questions à partir d'un article génial. Enfin, et je me demande si on n'aurait pas pu mener une analyse éco-politique. Quand vous regardez les vidéos de Pimple Popping, il y a tout un vocabulaire qui tourne autour de l'extraction, de l'alien extirpé, mais aussi parfois le vocabulaire de la pierre, du joyau qu'on extrait de cette peau. Je me demande donc si notre manière de concevoir nos corps n'est pas tributaire d'une certaine conception de notre monde et vice-versa. Des ressources à extraire, à prélever, un monde à maîtriser, à épuiser, un monde à raisonner, comme dirait Heidegger. Je vous laisse sur ces quelques, sur ces dernières notes. Je vous souhaite une bonne semaine et des prochaines semaines qui vont être pour tous et pour toutes difficiles. Voilà, bon, j'espère qu'avec les podcasts, je pourrai égayer ou accompagner le quotidien. À bientôt.